Archivif. Un voyage entre culture, patrimoine et sport au cœur du département de l'Ardèche.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Archivif, un magazine réalisé avec le département de l'Ardèche et trois radios ardéchoises. On se retrouve ce mois-ci pour le troisième épisode de cette troisième saison d'émission. Je pense que le 3 va être notre chiffre porte-bonheur aujourd'hui. Pour ce mois d'août, notre magazine sera axé sur l'activité culturelle et muséale ardéchoise soutenue par le département. Nous allons plonger au cœur du patrimoine ardéchois et nous demander comment la culture peut raconter l'agriculture et comment l'art peut permettre de transmettre l'histoire de notre territoire. Avec moi autour de la table, je suis accompagné de Fabrice Dufaux, responsable du service valorisation des sites et patrimoine naturel et référent de la ferme de Bourlatier, située à Saint-Andéol-de-Fourchade, une ferme datant du XVIIe siècle et témoignant du riche patrimoine naturel ardéchois, un lieu qui abritera cet été un grand nombre de manifestations culturelles. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Je suis également en compagnie d'Émilie Comès-Trinidad, archéologue, médiéviste et moderniste et chargée de programmation culturelle au service archéologique départemental muséal. Merci beaucoup d'être là, Émilie.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons aborder tous les trois la place du patrimoine naturel et historique ardéchois dans les manifestations culturelles de notre département.
Archivif.
De nombreux Ardéchois sont profondément attachés à leur territoire et à son patrimoine naturel. Et c'est justement cette identité, faite de paysages, d'agriculture et de mémoire collective, que mettent en valeur les animations proposées cet été à la ferme de Bourlatier. Des rendez-vous et des expositions pour mettre en avant non seulement l'histoire de nos beaux paysages, mais aussi des personnes qui les font vivre depuis des générations. Avant d'évoquer cette programmation, j'aimerais bien revenir sur ce lieu qui est assez exceptionnel. Est-ce que vous pourriez, Fabrice Dufaux, nous retracer l'historique de cette ferme au toit de l'Auze ?
Eh bien, la ferme de Bourlatier est effectivement une ferme emblématique de la montagne ardéchoise. C'est un édifice de granit couvert de lauzes qui est particulièrement impressionnant. Il est situé au col de Bourlatier. Il est très visible depuis la route départementale qui mène jusqu'au Gerbier de Jonc. Donc de nombreux ardéchois et de nombreux visiteurs admirent cet édifice en passant et parfois s'interrogent sur son histoire, ce qu'on peut y trouver, etc. La ferme de Bourlatier, elle trouve ses origines au XVIe siècle. Les premières mentions de Bourlatier figurent au XVIe siècle. Et il s'agit d'actes de transactions entre la Chartreuse de Bonnefoy et les seigneurs locaux. Donc on a les premières mentions de Bourlatier, mais encore on n'a pas la ferme telle qu'elle se présente aujourd'hui. À l'époque, on a probablement un petit fortin, une maison forte, quelque chose peut-être avec un petit caractère défensif. Le secteur de la montagne ardéchoise à cette époque est couvert de forêts encore en grande partie, et c'est un lieu où on peut avoir du brigandage et il y a peut-être des besoins de sécurisation, d'où l'idée d'un lieu fort, d'un lieu défensif. Mais c'est surtout au milieu du XVIIe siècle, en fait, que la ferme va prendre la forme qu'elle a aujourd'hui, puisqu'elle fait partie d'un ensemble de quatre fermes seigneuriales. Donc sur ces fermes-là, on est plus sur une histoire liée à l'aristocratie locale du XVIIe siècle que sur des fermes du secteur qui sont liées à l'histoire monastique directement. Donc peut-être que là, on est sur une particularité de la ferme de Bourlatier. Et donc à l'époque, la ferme fait partie d'un ensemble de quatre fermes seigneuriales aux dimensions assez importantes. Ce qui la distingue sans doute aujourd'hui encore de l'architecture peut-être plus modeste, même si elle reste monumentale sur le plateau ardéchois. Avec Bourlatier, on atteint des dimensions tout à fait hors du commun qui permettent le stockage du foin pour les longs mois d'hiver, mais aussi l'accueil d'un cheptel de bêtes à cornes assez important. Donc Bourlatier s'épanouit, on va dire, entre les 17e siècle et le début du 20e siècle et passe aux mains de différents seigneurs locaux. Donc c'est un édifice qui va aller de famille en famille au gré des alliances entre les familles nobles du Vivarais et du Velay. Et c'est un édifice qui va vivre la transformation du monde agricole au cours du XXe siècle et qui va progressivement être abandonné dans le milieu des années 70. Les terres sont toujours occupées par du bétail, par l'activité agricole et d'élevage de la montagne ardéchoise. Mais l'édifice en lui-même, lui, va progressivement être abandonné. C'est à ce moment-là que l'association Ligère va intervenir en 1987 avec le rachat de cette ferme dont la toiture est particulièrement endommagée, notamment au niveau du logis, et l'association va engager des travaux importants de restauration. Alors l'association Ligère, elle a une histoire particulière. Elle se développe sur la montagne ardéchoise et le côté ligérien au milieu des années 70, où là, un groupe de personnes sensibles à l'histoire du patrimoine et à son devenir souhaitent connaître, rechercher, restaurer, préserver les savoir-faire qui sont liés à une architecture de montagne qui est particulière, puisque sur ce secteur du Massif central, on a habité très haut en altitude, et selon les moyens des occupants, des personnes qui avaient bâti ces maisons, il y avait une diversité de toitures en présence, et notamment des toitures de chaume, plutôt côté altiligérien, des toitures de lauze et de genêt, côté ardéchois. Et donc c'est cette caractéristique architecturale que l'association a souhaité préserver. Je précise que l'Iger en latin signifie la Loire. Donc en 1987, l'association fait l'acquisition de la ferme de Bourlatier. Quelques années plus tôt, elle avait également acquis la ferme de Clastres, qui au cœur de Sainte-Eulalie, qui est une ferme avec une toiture de genêt tout à fait exceptionnelle et qu'elle va prendre soin de restaurer jusque sur les années les plus récentes. Et cette ferme-là de Clastres, elle, est classée monument historique en 1984. La ferme de Bourlatier, elle, ne fait l'objet d'aucune protection aujourd'hui, aucune protection particulière, sauf qu'elle a été particulièrement bien restaurée et que cette restauration, la qualité de cette restauration a été récompensée par le prix chef-d'œuvre en péril en 1988.
Tous ces épisodes de restauration et tout cet historique de la ferme qui a vu passer donc de nombreux épisodes de notre histoire locale accueillent maintenant des manifestations culturelles extrêmement diversifiées, des concerts, des expositions. Est-ce qu'il y a des travaux particuliers qui ont été menés pour justement permettre à la ferme d'accueillir ce genre de manifestation?
Alors aujourd'hui, on reste sur un édifice qui est quand même encore assez rustique dans sa forme. On a conservé véritablement la toiture telle qu'elle était à l'époque. Elle a été restaurée, elle a fait l'objet de plusieurs travaux de restauration, mais l'essentiel de la charpente est composé de bois qui date du XVIIe siècle. On le sait, ça a été daté par dendrochronologie, donc on a des données très, très précises là-dessus. Ce qui a été aménagé, on va dire, à l'intérieur de la ferme, c'est essentiellement la question des planchers. Donc ça a été restauré, et c'est ce qui permet aujourd'hui d'accueillir dans les différents niveaux, les deux niveaux qui sont proposés, différentes manifestations. Ce que je peux souligner, c'est que l'association Ligère a restauré l'édifice avec le concours de chef d'œuvre en péril, mais aussi avec le concours du département jusque dans les années, au début des années 1990, et qu'à partir de 1992 ou 13, l'association a confié via un bail emphytéotique, donc un bail de très longue durée qui a pour conséquence de quasi transférer les charges du propriétaire vers le teneur du bail, au département de l'Ardèche, qui depuis cette date, avec le concours de différents partenaires et puis plus directement depuis 2023, anime le lieu. Donc la ferme de Bourlatier, dans les années 90, ça a été la ferme mémoire de la montagne ardéchoise, puis ça a été un lieu qui a accueilli des manifestations autour de l'art contemporain en tant que site satellite ou annexe du parcours partage des eaux. Aujourd'hui, c'est un lieu qui est en recherche, en discussion, en réflexion sur sa vocation. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'accord qui nous lie avec l'association Ligère, l'association propriétaire, le département s'engage à en faire un lieu où on questionne le rapport de l'homme à la nature, de l'homme à son paysage, de l'homme à l'agriculture et à la manière dont le site est intégré dans son environnement et dans son paysage.
Et justement, les animations estivales et culturelles que vous allez proposer à la ferme de Bourlatier sont pour certaines axées sur l'importance de l'agriculture et des paysages dans le cœur des Ardéchois. Et pour aborder ces sujets, vous passez par le biais de l'art, par exemple la photographie. Pourquoi avoir choisi de traiter ce genre de sujet par ce médium-là, par le médium artistique ?
Alors d'abord, ce qu'on peut dire en préliminaire, c'est que Bourlatier, avec sa surface, il y a quasiment 900 mètres carrés de plancher, offre 1000 possibilités. Et 1000 possibilités de s'exprimer sur des sujets divers. Et c'est vrai que depuis sa restauration, le site a toujours eu une vocation d'accueil de l'expression artistique. Et le département a souhaité aussi s'inscrire dans cette continuité. Alors, il y a des photographes sur le territoire, il y a des photographes sur des territoires proches qui s'interrogent sur la relation de l'homme à la nature, de l'homme à l'agriculture, sur le monde agricole aujourd'hui, avec ses problématiques, ces hommes, ces femmes qui font vivre l'économie locale, mais qui font aussi vivre les paysages, ces paysages qui sont donnés à voir aux visiteurs, et ont trouvé que c'était intéressant de s'inscrire dans cette relation-là aussi. Et c'est pour cette raison que deux expositions en fait sont proposées, qui permettent de mettre en avant la relation de particulière de ce territoire avec l'agriculture. Il y a d'abord sur un plateau de Léna Dur, qui est donc une photographe qui propose un angle de vue assez contemporain sur le monde agricole, sur des scènes du quotidien, mais avec une prise de vue qui est un angle qui est souvent assez, on va dire, moderne et actuel. Et cette exposition, elle est proposée dans la partie basse de Pourlatier, dans l'ancienne étable, et elle est partagée, cet espace, cette ancienne étable est partagée avec une autre exposition qui est l'exposition Gueules et paysages d'Ardèche par Claude Fougérol. Donc là, on est sur une photographie qui est un peu plus académique dans son style et dans ses partis pris, mais c'est intéressant aussi d'avoir ces deux modes d'expression qui dialoguent sur un même espace.
Tous ces travaux artistiques, vous m'avez parlé du travail de Léna Dur, de Claude Fougérol, visent à rendre compte un petit peu de l'essence de cette histoire ardéchoise et des agriculteurs, agricultrices qui la font vivre, mais ces expositions artistiques, c'est qu'une petite partie de la programmation, parce que cet été, la ferme de Bourlatier va accueillir également de nombreux rendez-vous, mêlant balades, conférences et même concerts. Est-ce que vous voulez bien me présenter les temps forts qui vont animer la ferme cet été?
Alors en complément, tout à fait, en complément des expositions qui sont présentées dans la partie basse, il y a encore à l'étage de Bourlatier, dans la Fenaigre, la grange, aux dimensions monumentales, il y a toujours l'exposition Gerbier-Mézin, grand site, grand paysage, qui permet de mettre en avant la démarche grand site qui est portée actuellement par les collectivités, dont le département de l'Ardèche, sur le territoire, et qui permet de comprendre quelles sont les qualités environnementales, paysagères, les spécificités d'agriculture, les spécificités culturelles et architecturales qui justifient aujourd'hui la mise en place d'une démarche d'opération grand site, et aussi comment le territoire a été mis en tourisme depuis déjà très longtemps, puisque la maison du Gerbier, qui est l'ancien chalet du Touring Club de France et du syndicat d'initiative du Velay au pied du Gerbier, a été bâtie au début du XXe siècle. Donc ça fait déjà 125 ans que sur ce territoire, on se questionne sur la manière d'accueillir, sur la manière de se mettre en récit. Donc il y a d'abord cette première exposition qui occupe une partie de l'étage de Bourlatier. Et puis, pour faire vivre le site, le connecter à ses habitants, aux envies de la population, mais aussi aux envies du visiteur, il y a une quantité effectivement de manifestations culturelles qui sont proposées. Alors ça va de la projection cinématographique avec la Maison de l'Image. On a plusieurs dates qui sont proposées dans l'été, une qui est passée puis une qui est à venir au mois d'août avec la projection du film d'animation Arco le 19 août. Et puis on a également des concerts. C'est intéressant de voir comment le site réagit à l'accueil du public en mode concert. Il y a une estrade à Bourlatier, il y a une jauge qui peut accueillir 150 à 200 personnes dans le public, et puis il y a une acoustique absolument exceptionnelle. On a accueilli le concert Le Souffle du Berger, qui est un spectacle organisé dans le cadre de l'année internationale du pastoralisme autour des musiques pastorales du Moyen-Âge jusqu'à la période contemporaine, et donc c'était extrêmement intéressant de voir comment des instruments en acoustique réagissaient à cette charpente majestueuse. Donc ça, c'est pour la partie musicale. On a également des conférences qui sont accueillies, je pense à celle qui sera accueillie le 20 septembre prochain dans le cadre des journées européennes du patrimoine autour de l'histoire et de l'archéologie de la Chartreuse de Bonnefoy. Donc c'est intéressant de faire des renvois à d'autres édifices et d'autres sites patrimoniaux emblématiques du territoire. C'est une conférence qui sera animée par Émilie Comestridad à nos côtés aujourd'hui, et puis par Elodie Blanc. Et puis on a également des activités plus tournées vers le jeune public avec des balades clownées à travers la ferme de Bourlatier, des balades contées également de la ferme de Bourlatier, et puis des animations qui font aussi référence à l'inscription de la ferme de Bourlatier dans son environnement, à la qualité écologique et à la biodiversité exceptionnelle. Donc certaines visites qui permettent de découvrir notamment l'avifaune, donc tous les oiseaux qu'on va pouvoir observer autour de Bourlatier, mais également autour de la botanique et des usages des différentes plantes qu'on va trouver dans l'environnement immédiat de Bourlatier. Hein. Il est très curieux de faire un petit tour de la ferme, mais on s'aperçoit qu'il y a déjà une vingtaine ou une trentaine d'espèces qui ont des usages ethnobotaniques. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, il y aura également un concert accueilli le 29 août dans le cadre du partenariat avec l'album En Musique. Et c'est le duo Albessine qui va se produire sur place. Donc vous voyez, une programmation assez diverse qui mêle à la fois la découverte culturelle sur des propositions tout à fait contemporaines, mais aussi des choses qui sont plus liées à la découverte de l'environnement et de la qualité des paysages.
Oui, ça a l'air d'être une programmation culturelle qui permet de découvrir non seulement le patrimoine naturel, mais aussi aussi architectural, historique, ardéchois, un petit peu d'une autre façon, par la culture. On a parlé un petit peu plus tôt de l'historique de la ferme de Bourlatier, des travaux et des rénovations qui avaient été menées jusqu'à maintenant pour préserver ce lieu. C'est quoi la suite pour cette ferme ?
Alors justement, la programmation culturelle qui est proposée cette année à Bourlatier, qui mêle toute cette diversité de propositions, elle est aussi là pour nous permettre de voir comment le site réagit à l'accueil de différentes manifestations. Et tout ça s'inscrit aussi dans une réflexion qui est menée par le département avec les acteurs locaux, les acteurs associatifs, les habitants, sur la vocation de deux sites emblématiques de la montagne ardéchoise, qui sont la ferme de Bourlatier et la maison du Gerbier, deux sites qui, dans le cadre de la démarche grand site, peuvent assez logiquement dialoguer ensemble. Ils sont distants seulement de 3 km. La maison de site accueille chaque année au Gerbier autour de 25 000 visiteurs et la ferme de Bourlatier, pour l'instant, n'en accueille que 4 000 à 5 000. Et on s'est dit qu'il y a probablement un potentiel assez fort de redirection du public vers Bourlatier pour en faire véritablement un lieu de présentation de l'offre paysagère, environnementale et culturelle du plateau ardéchois, tout en faisant des renvois vers les différentes structures qui existent sur le territoire et tout aussi en faisant un lieu qui permettent de répondre aux besoins des habitants.
Merci beaucoup, Fabrice Dufaux, référent de la ferme de Bourlatier, pour cette présentation. Avant de poursuivre, on va marquer une petite pause musicale. Vous écoutez toujours votre magazine mensuel Archivif, le troisième de cette nouvelle saison, axé ce mois-ci sur les manifestations culturelles en lien avec l'histoire et l'agriculture sur notre département. Nous venons d'écouter un extrait de Chemin d'avant les mots du duo Albaïcine, duo qui se produira en concert le samedi 29 août à la ferme de Bourlatier, dont on vient d'étudier l'histoire et la programmation culturelle estivale. Je suis toujours accompagnée de son référent Fabrice Dufaux, ainsi que de Émilie Comestrinidad, archéologue médiéviste et moderniste et chargée de programmation culturelle au service archéologique départemental muséal. Quand on parle de patrimoine, on pense souvent paysage, mais ces paysages racontent également une histoire vieille de plusieurs milliers d'années, une histoire antique qui ne peut être mise en lumière que par un travail archéologique, et c'est précisément ce pan de l'histoire que nous permet de découvrir le service archéologique départemental muséal, intégré à la direction culture, sport, jeunesse, vie associative de l'Ardèche. Ce service se situe sur le site antique d'Alba-la-Romaine, classé monument historique, et permet non seulement aux visiteurs d'en apprendre plus sur cette ville antique par le biais d'expositions, d'ateliers, de moments de médiation, mais il mène également des recherches archéologiques et dispose d'un centre de conservation et d'études. Je sais pas si cette présentation était vraiment exhaustive, alors je vais me tourner vers vous, Émilie. Pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter de manière peut-être un peu plus exacte Muséal et les différents services qu'il réunit ?
Non, c'était déjà un panel presque exhaustif. Effectivement, en fait, la particularité de Muséal, c'est qu'on regroupe dans une même, au sein d'une même structure plusieurs choses. Le service archéologique d'archéologie préventive et un musée qui a une collection Musée de France qui va présenter une partie des objets qui ont été trouvés lors des fouilles d'Alba, puisqu'effectivement le musée est construit sur le site d'Alba, l'ancienne capitale du peuple des Elviens.
Donc c'est un service qui rassemble, si j'ai bien compris, des pôles plutôt axés sur la recherche et la conservation et d'un autre côté des pôles plutôt axés sur la médiation pour le public.
Tout à fait, en fait on va associer la recherche, qu'elle provienne des fouilles préventives, programmées, de l'étude du site, de l'étude des objets, de l'étude des collections, la préservation de ces collections, la préservation du patrimoine et puis la mise en valeur de ce patrimoine par le biais de l'exposition déjà permanente, la collection qui est exposée de façon permanente au musée et puis les expositions temporaires qui ont lieu selon des rythmes qui vont varier mais qui sont là en général au moins une année.
Et tout ça sur le site antique, on l'a dit, de Alba-la-Romaine, classé monument historique. C'est un site de 17 hectares qui témoigne de l'histoire du lieu et du quotidien quotidien de ses habitants, de quoi faire un vrai voyage dans le temps. Émilie, est-ce que vous pourriez justement nous retracer un bref historique de cette ancienne capitale du peuple des Elviens?
Oui, en fait, Alba était une ville capitale de cité, la cité des Elviens, qui ont été romanisés lors de la conquête de la Gaule. Et ce qui est intéressant quand on visite le site, c'est que les parties qui ont été fouillées et qui ont été restaurées pour permettre de la visite, nous permettent en fait de faire un voyage dans le temps et dans le quotidien, effectivement, comme vous l'avez dit, de ce peuple des Elviens, ce peuple romanisé, puisque quand on se promène sur le site, on peut notamment se promener sur le Cardo. Et le Cardo, c'est une des deux voies, le Cardo et Decumanus, qui a conservé une partie de son pavement, avec des traces de chars. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui permettent de voir la vie quotidienne. Ce Cardo, il était bordé de boutiques et il était doté d'un portique. On a ça dans plusieurs villes, hein, toujours aujourd'hui. Alors voilà, les vestiges sont ce qu'ils sont. Ils ne sont pas conservés sur une grande hauteur, mais ils permettent de se projeter. Et puis le clou du spectacle, sans mauvais jeu de mots, c'est le théâtre antique qui a été fouillé et restauré il y a quelques années. Et là, il offre un écrin parfait pour pouvoir accueillir des spectacle et une programmation culturelle et artistique annuelle.
On reparlera un peu plus tard de cette programmation artistique à venir, mais pour récolter ces pièces de puzzle, pour retrouver les traces de ce théâtre et de ce cardo, je suis curieuse de savoir quel genre de recherches, d'études ou de fouilles ont été menées ces dernières années, ou en tout cas au fil des années, pour nous permettre d'avoir accès à cet historique.
En fait, le site archéologique, enfin le site, la capitale des Elviens, a été en activité du 1er au 4e siècle, et après son abandon progressif au IVe siècle, elle a été complètement oubliée. Et c'est à partir du XVIIIe siècle qu'on la redécouvre, notamment sous les vignes. Et il y a eu commencé à avoir des fouilles à partir du XIXe, XXe, et ça s'est accéléré et professionnalisé surtout à partir des années 70-80. C'est à partir de ce moment-là où on va avoir une archéologie scientifique, si l'on peut dire, et le site va être fouillé par différents chercheurs, différentes chercheurs et chercheuses qui vont mettre en lumière certaines parties du site notamment, et qui vont récolter comme ça recueillir de nombreux objets qui constituent les collections et les réserves du musée. Et actuellement, depuis plusieurs années, c'est ma collègue Audrey Saison, qui est archéologue antiquisante, qui a en fait la charge de l'étude scientifique du site, la conservation et l'étude scientifique du site. Et pour cela, elle fait appel depuis quelques années à une méthode dite non invasive, en fait, puisqu'elle réalise des prospections géophysiques. Donc des prospections géomagnétiques, on fait passer un géoradar sur le site, un géophysicien, c'est un spécialiste qui fait ça, et ça permet en fait, campagne après campagne, de compléter le plan de la ville, puisque on a une vision très partielle, on ne peut pas tout fouiller, puisqu'il y a des parcelles qui sont privées, qui n'appartiennent pas au département de l'Ardèche, d'autres qui sont sous des vignes, donc il est hors de question qu'on arrache des vignes pour fouiller, et puis une partie qui est sous la route actuelle. Et donc cette méthode non-invasive donne des résultats assez probants et qui permettent vraiment de compléter le site et d'avoir surtout une nouvelle approche de l'habitat. Parce que là, l'habitat, on le perçoit très peu parce qu'on a vraiment l'ensemble monumental qui est donné à voir lors de la visite, mais l'habitat nous échappe, entre guillemets.
Pour rendre compte du résultat de ces recherches, de cette histoire au plus grand nombre, le service archéologique départemental muséal utilise pas mal l'outil culturel en proposant, vous m'avez parlé de visites, voilà, de points phares du site, d'expositions basées sur les résultats des fouilles. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de ces actions culturelles destinées au grand public que vous mettez en place pour rendre cette histoire et le résultat de ces recherches accessibles et compréhensibles pour tous?
Effectivement, une action très concrète, au fur et à mesure de l'avancement de la recherche sur le site d'Alba, nous programmons en fait des conférences. Là, pour le coup, Audrey Saison donnera une conférence le 25 septembre, c'est un vendredi à 18h, elle donnera une conférence sur les résultats de ces fouilles. Et puis elle publie aussi dans différentes revues patrimoniales ardéchoises. Elle a notamment également publié un petit livret dans les éditions du Dauphiné qui retrace un petit peu l'histoire de l'Ardèche antique et qui met quand même l'accent sur Alba et puis les territoires qu'elle a eu l'occasion d'étudier. Et puis également le résultat des recherches qui sont menées sur le site et puis plus largement à l'échelle de l'Ardèche, permettent d'enrichir à la fois les visites guidées et à la fois les actions de médiation culturelle. Puisqu'en fait, les médiateurs et médiatrices sont aussi des archéologues et en fait, ils se nourrissent des avancées de la recherche, tant des avancées qui sont faites par notre service que par d'autres archéologues et d'autres, par exemple, l'INRAP qui fouille souvent à Alba ou dans d'autres parties de l'Ardèche.
Tout ça, ça permet de rendre vraiment ce patrimoine et ces informations accessibles pour tous, grâce à notamment des conférences, mais aussi des actions culturelles. Et justement, cette volonté de mêler culture et histoire, elle va se poursuivre pendant la période estivale sur ce site de Alba la Romaine. Muséal va proposer une offre assez variée pour tout type de public. De quoi sera composé exactement le programme des interventions qui se tiendra sur la période estivale ?
Sur la période estivale, donc on va avoir plusieurs types de propositions. On a une proposition culturel, artistique, spectacle vivant. Notamment, le prochain rendez-vous sera le 7 août. On accueille la compagnie Les Herbes Folles, le collectif Les Herbes Folles, qui jouera une pièce du théâtre classique qui s'appelle Le Vieillard Amoureux. Et puis, on a également ce rendez-vous qui est là depuis plusieurs années, en partenariat, enfin en alternance avec la mairie d'Alba. On accueille la Maison de l'Image, qui nous fait une projection de ciné en plein air au théâtre antique. Donc là, c'est un cadre assez sympathique. Ce sera le mercredi 5 août et on pourra découvrir Vivaldi et moi, un film en italien sous-titré français. Et puis, le dernier rendez-vous, ce sera le 13 août avec une soirée astro comptée pour toute la famille. Donc on se retrouve au Théâtre Antique à 21h15 pour avoir une découverte de ce ciel étoilé et puis en apprendre également plus sur l'éclipse qui aura eu lieu la veille. Donc voilà, on aura ce type de propositions et puis en parallèle, au-delà des rendez-vous nocturnes, on a également d'autres propositions de médiation avec des ateliers. Le lundi, on peut se prêter au jeu de l'initiation à la fouille archéologique à 14h et puis les jeudis, à partir de 16h, ce sont des ateliers archéo-créatifs. Vous pourrez notamment tester la fabrication de lampes à huile, de sesterces et vous prêter au jeu du tissage. Et puis le jeudi soir, on a également, à partir de 18h, un escape game sur le site antique. Voilà, vous partirez à la découverte de qui a volé le vin sacré.
C'est une programmation assez variée. On a des animations qui vraiment se concentrent sur ces recherches archéologiques et sur le côté historique de ce site, mais aussi site qui sert un petit peu d'écrin pour une programmation culturelle qui va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, il me semble que cette programmation se poursuit dès l'automne. Quels sont les grands rendez-vous qui sont à noter après la période estivale ?
Après la période estivale, on va avoir plusieurs rendez-vous assez importants, notamment les journées européennes du patrimoine. Fabrice en a parlé. Les samedis et dimanches 19 et 20 septembre, nous accueillerons le samedi après-midi et le dimanche après-midi des visites décalées poétiques par la compagnie Fractal. J'en dis pas plus, je réserve une part de
mystère.
De mystère. Le soir, nous aurons un duo de violon du quatuor Debussy. Pas un quatuor, pour le coup, ils seront deux. Et en parallèle, nous aurons également la présentation de l'ouvrage auquel a collaboré mon collègue Nicolas Latteur, qui est archéologue et paléontologue, qui fait partie du service archéologique et de l'équipe de recherche de la grotte Chauvet. Et il a notamment collaboré avec Corinne Ferrand-Moulin, qui a écrit un ouvrage pour enfants qui s'appelle Le Loup de Nocaïna et qui se déroule en Ardèche durant la préhistoire et qui a été illustré par Anne de Freville. Et donc ces trois profils diversifiés mais complémentaires nous feront le plaisir d'une discussion le vendredi soir 18 septembre pour parler de leur travail commun, de leur collaboration, et ils seront là tout le week-end en fait pour dédicacer l'ouvrage et puis discuter avec les curieux, les passionnés, les petits et les grands. Donc le 25 septembre, nous aurons, comme je l'ai dit, la conférence d'Audrey Saison sur le résultat des prospections géophysiques géomagnétiques, et ça nous permettra d'ouvrir un cycle sur des conférences en lien avec la fête de la science. Pour ça, les archéologues de Muséal se sont prêtés au jeu des conférences, donc je donnerai ma propre conférence le vendredi 2 octobre à 18h, ce sera sur les idées reçues sur le Moyen-Âge. Le vendredi suivant, le 9, ce sera Nicolas Latteur et Delphine Dupuis qui nous parleront des derniers résultats des prospections archéologiques à la grotte Saint-Marcel, Saint-Marcel d'Ardèche. Puis Audrey Roche, notre directrice de service, elle nous parlera de la réglementation autour de l'archéologie. tout le monde est un petit peu archéologue, mais est-ce que tout le monde a le droit ? Et puis, on clôturera ce cycle de fêtes de la science avec Henri-Bernard Maugiron. Il est conservateur, restaurateur à Arc Nucléaire et il se charge en fait de restaurer, de stabiliser et de restaurer les bois gorgés d'eau qu'on trouve en archéologie dans des lacs, par exemple, notamment au lac du Bourget. Et lui, c'est donc sa spécialité. Donc, il viendra nous parler de la manière dont il travaille. Jusqu'en novembre, des conférences comme ça vont venir ponctuer les vendredis au musée. Avec un petit moment convivial à la fin et sur le thème du bois. Le bois en archéologie, donc Henri-Bernard Maugiron, lui, nous parlera du bois, des bois gorgés d'eau. Robin Brigand, des sites palafitiques, donc des sites sur des lacs, d'anciens sites préhistoriques en milieu humide. Émilien Bouticourt, des charpentes médiévales. Et puis, il y a une nouveauté. On a imaginé les dimanches après-midi au musée, un moment qui a vocation à accueillir la famille, surtout sur des moments octobre-novembre où il ne fait pas extrêmement beau. Là, on l'oublie parce qu'il fait hyper beau, hyper chaud, mais voilà, octobre-novembre, c'est pas très beau. Donc, les dimanches après-midi, d'une part, l'entrée au musée est gratuite et d'autre part, il y aura des activités gratuites ouvertes à tous. On aura notamment des sessions de contes pour les petits et les grands. On aura également des sessions de jeux et des jeux qui sont organisés par un médiateur qui est spécialisé, Sylvain Galéa, en jeux antiques et médiévaux. Donc vous pourrez jouer à des jeux antiques, à des jeux médiévaux qu'il fabrique lui-même, des jeux en bois principalement. Voilà, de quoi occuper vos dimanches après-midi en famille. Et puis on aura d'autres rendez-vous, on accueille notamment le Père Noël avant la fermeture. Donc le Père Noël, il est là le week-end du 6 décembre. Et puis on aura également une projection de documentaires en partenariat avec la médiathèque départementale, avec nos collègues, donc les Sentiers du Doc, le 18 novembre.
Toutes ces actions liées à l'histoire, pour moi, nous montrent que l'archéologie, ça consiste pas juste à étudier le passé, c'est aussi le transmettre et le faire vivre auprès de tous les publics. Aujourd'hui, à travers les fouilles, les recherches, les expositions ou encore les nombreuses animations proposées tout au long de l'année, c'est toute l'histoire de notre territoire avec un petit et un grand H qui devient accessible, vivante et surtout concrète. Et l'art et la culture sont toujours des très beaux outils pour la transmettre, pour la partager. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé avec nous votre passion pour le patrimoine ardéchois. On rappelle que toutes les animations évoquées aujourd'hui sont à retrouver sur les sites du département de l'Ardèche, de la ferme de Bourlatier et du service archéologique départemental muséal. Que vous soyez amateur d'histoire, amoureux de nature, féru d'agriculture ou curieux d'architecture, les manifestations culturelles qu'on vient d'évoquer devraient vous parler. Comme quoi la culture et l'art sont un beau point d'entrée vers notre histoire et notre patrimoine ardéchois. Avant de conclure cette émission, Émilie, Fabrice, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs ?
J'ai envie de dire, venez redécouvrir la montagne ardéchoise en vous arrêtant à la ferme de Bourlatier au cours d'une des manifestations qui vous est proposée.
Moi, je vous propose d'aller à Muséal et après de remonter à Bourlatier pour prendre le frais. C'est pas beau ?
Ça peut être un beau parcours. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fabrice Dufaux, responsable du service valorisation des sites et patrimoine naturel et référent de la ferme de Bourlatier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Émilie Comestrinidad, archéologue, médiéviste et moderniste et chargée de programmation culturelle au service archéologique départemental muséal, d'être venue témoigner sur les ondes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Archivif. En attendant, passez une très belle journée et à bientôt.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Archivif. Un voyage entre culture, patrimoine et sport au cœur du département de l'Ardèche.